France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, Pierre Boulez aura réussi à se faire connaître au-delà du cénacle des amateurs de musique d'avant-garde, au-delà du cercle des mélomanes. Son nom est devenu synonyme de modernité, celle qu'on recherche ou qu'on redoute. Mais on le sait bien, Pierre Boulez, disparu en 2016, ne fut pas que compositeur, admiré ou honni, mais aussi chef d'orchestre, penseur, bâtisseur, entrepreneur. C'est cette figure à multiples facettes, ce Boulez à facettes, que Christian Merlin nous propose sinon de découvrir, au moins de mieux connaître, à travers une imposante monographie de quelques 600 pages qui sera en librairie le 2 octobre prochain. Pierre Boulez de Christian Merlin, publié par Fayard. L'ensemble du domaine musical dirigé par Pierre Boulez, c'était le tout début du marteau 100 mètres de Pierre Boulez. Bonjour Christian Merlin.
Bonjour Philippe.
Les auditeurs de France Musique vous connaissent bien, vous leur donnez rendez-vous tous les dimanches à 9h pour aller 2h durant au cœur de l'orchestre et puis ils peuvent également vous lire dans les colonnes du Figaro et vous êtes l'auteur donc de cette monographie consacrée à Pierre Boulez qui sera en librairie, je l'ai dit, le 2 octobre, édité par Fayard. Un gros travail, évidemment, gros travail de recherche. Et vous dites dans l'introduction que c'est un travail personnel, que l'objectivité est impossible et, en quelque sorte, vous proposez votre Pierre Boulez, nourri de 8 rencontres, entre autres. Bien sûr, il n'y a pas que ça, beaucoup de recherches.
C'est vrai, mais je crois que c'est inévitable. Je ne crois pas à l'objectivité en rien du tout, ni en critique musicale, ni en recherche. Et je trouve plus intéressant les travaux qui reflètent, je veux pas être prétentieux non plus, mais qui reflètent l'approche, la sensibilité de l'auteur. Je crois que c'est complètement illusoire de se réfugier derrière une neutralité. Alors, ça ne veut pas dire effectivement que je n'ai pas essayé d'avoir la plus grande rigueur possible dans l'établissement des faits. Et j'ai consulté énormément d'archives pour les recouper. Mais néanmoins, quand on s'intéresse à une personnalité, on essaye de la pénétrer, d'en comprendre la sensibilité. Et là, c'est la vôtre propre qui parle. Il ne faut pas se voiler la face. Il est vrai que j'ai eu le privilège de rencontrer plusieurs fois Pierre Boulez, et depuis longtemps, même très tôt, même déjà quand j'étais étudiant. Et ce qui m'a tout de suite frappé, bien avant d'avoir même l'idée que je pourrais un jour écrire quelque chose sur lui, c'est une sorte de décalage entre l'image publique qui était véhiculée et l'homme privé. On m'avait, entre guillemets, vendu un Pierre Boulez froid, cassant, despotique en plus. Et la personne que j'ai rencontrée était quelqu'un d'extrêmement chaleureux, doux, accessible, y compris à des gens de rien du tout. Moi, j'étais juste étudiant, j'étais nobody, j'étais pas critique musical. Et après, ça s'est vérifié, et ça m'a vraiment intrigué. Comment, à ce point, peut-on avoir un décalage entre deux facettes? Et ça n'est que plus tard que j'ai découvert qu'il y en avait beaucoup plus des facettes, comme vous l'avez évoqué dans votre introduction.
Et Christian Merlin, vous évoquez donc effectivement... dans ce gros livre, la musique de Pierre Boulez, mais aussi son travail effectivement de compositeur, d'entrepreneur, on y reviendra. Ce travail nourrit de nombreuses recherches, vous l'avez dit, parce qu'il y avait beaucoup de choses à découvrir qu'on ne connaissait pas sur Pierre Boulez.
Certainement, d'abord parce que c'est quelqu'un qui était en fait un homme public, mais en même temps extrêmement pudique, donc il n'a jamais parler de lui, au fond.
C'est très secret, oui. Mais il ne pas se livrer, oui.
Ah non, jamais. Mmh. Et d'ailleurs, ça lui a joué des tours quand il était directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de New York, parce que à l'époque, déjà dans les années 70, aux États-Unis, la notion de communication se développait beaucoup, et l'attaché de presse de l'orchestre voulait l'envoyer dans les shows en prime time à la télévision américaine.
Et surtout quand on passe après Bernstein,
mais
oui.
Exact, complètement, qui était l'extrême opposé. Ouais. Et on lui posait des questions sur son enfance, et il répondait à côté à chaque fois, et on a fini par plus l'inviter dans les émissions. Et oui, effectivement, il y avait encore des choses, parce que vous avez signalé que le livre que je faisais paraître était chez Fayard. Il y avait déjà un Pierre Boulez chez Fayard, il faut le rappeler.
Oui.
Mais
oui,
le livre de Dominique Jameux, qui est de 1984. Alors, il y a deux grandes différences. C'est que, un, il était encore en vie, Pierre Boulez. Ça doit être très mal commode d'écrire sur quelqu'un qui est encore en vie, parce qu'on doit se sentir un peu sous pression. Et surveillé. Et l'autre chose, c'est que il n'y avait pas d'archives vraiment. Or, si lui-même a été très pudique, en revanche, il a légué ses archives. Il y en a une grande partie à Bâle, à la fondation Paul Zacher. Là, c'était vraiment légué par contrat. Et puis, il y a depuis un ou deux ans maintenant un fonds Pierre Boulez à la Bibliothèque nationale de France, qui a été légué par ses neveux. Et nièce. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que on y a des documents de première main qui n'avaient pas encore été explorés. Moi-même, je n'ai pas eu le temps matériel de tout explorer, parce que les documentalistes de la Bibliothèque nationale sont encore en train de faire le travail de catalogage. Mmh. Il y a notamment ces partitions de chef à noter. Ça, ce sera passionnant pour les chercheurs.
Bien sûr, oui.
Et puis, il y a la correspondance. Et j'avoue que je me suis beaucoup appuyé sur la correspondance pour ce travail, parce que je trouve que les lettres qu'on envoie ou qu'on reçoit humanisent quelqu'un et l'incarnent. Et ça m'a permis, je crois... par certains côtés, de mieux comprendre certaines facettes du personnage.
Thank you.
Manfred Jung dans le rôle de Siegfried, Heinz Zednik dans celui de Mime, l'orchestre du festival de Bayreuth, dirigé par Pierre Boulez. C'était la fin du premier acte de Siegfried de Richard Wagner. Christian Merlin, on n'aura pas évidemment le temps en une demi-heure de faire le tour de toute la carrière de Pierre Boulez, notamment celle de compositeur. Je voudrais qu'on s'attarde un peu sur celle de chef d'orchestre. Parce qu'au départ, j'ai choisi de commencer cette émission par de la musique de Pierre Boulez parce qu'il était compositeur. Il est devenu ensuite chef d'orchestre, un peu par nécessité.
Oui, par hasard et par nécessité, voilà. Pour reprendre deux mots qu'il employait très volontiers. Ouais. En fait, il a dû mettre la main à la pâte. Il a fait un diagnostic qui est que la vie musicale française après-guerre était trop conservatrice à ses yeux et qu'il fallait secouer tout cela et l'ouvrir à la modernité, à l'avant-garde, c'est-à-dire à la musique de Darmstadt, les héritiers de l'école de Vienne, la musique dodécaphonique. Et pour ça, il a fondé ses propres concerts, le domaine musical, qui est une association de droit privé avec du mécénat, avec trois bouts de ficelle. Hein, et il faisait tout. Là, il rangeait les chaises, il disposait les pupitres, il collait les enveloppes. Le problème, c'est que si l'ensemble, le domaine musical, voulait se développer, on pouvait pas se contenter uniquement de petits effectifs de musique de chambre, il fallait aussi des musiques orchestrales. Or, Pierre Boulez fait le constat suivant, les grandes pointures de la baguette ne s'intéressent pas à la musique contemporaine, sauf deux exceptions, Roger Desormières qui tombe malade à ce moment-là et Hermann Scherchen qui était très difficile d'accès.
Et Rosbaud aussi, non ?
Hans Rosbaud qui était basé en Allemagne effectivement et qui a beaucoup soutenu Pierre Boulez. Donc il s'est dit il faut bien que quelqu'un s'y colle et il a commencé par diriger des petits effectifs avec ses amis de l'ensemble qui n'étaient pas salariés, qui étaient des cachetonneurs entre guillemets, et il dit lui-même on avait les mêmes difficultés. Eux découvraient ces musiques, ne savaient pas comment les jouer. Et moi, je ne savais pas comment les diriger. Donc, ça a été de l'artisanat. Et il a toujours, je crois, beaucoup insisté sur ce côté artisanat. Il
furieux,
s'est appris. Exactement. Bravo. Bien vu. Et à la fois furieux et en même temps maîtrisé, c'est tout le paradoxe boulezien. Hein, l'extase contrôlée, entre guillemets. Le délire contrôlé, comme il disait lui-même. Et bah, on s'est aperçu qu'il était plutôt doué. Et du coup, évidemment, de loin en loin, un jour, il a l'occasion de diriger un plus grand orchestre symphonique. Et ça marche plutôt bien. Et c'est là que Hans Rosbaud, qui était le chef de l'orchestre du Südwestfunk à Baden-Baden et qui était son, en quelque sorte son mentor, est tombé malade à son tour. Il y a eu beaucoup des mentors de Pierre Boulez et de ceux qui l'ont encouragé, qu'il a vu disparaître. C'était une grande douleur pour lui à chaque fois parce que, contrairement à ce qu'on croit parfois, c'était un homme extrêmement sensible. Et Rosbaud, tombé malade, annule beaucoup de concerts et à chaque fois, il recommande Boulez pour le remplacer. Et là, on s'aperçoit qu'il n'est pas maladroit du tout à la direction et même qu'il invente un nouveau style de direction sans baguette, très, très épuré, et qui va lui ouvrir les portes de cette carrière qu'il n'avait pas du tout soupçonné ni même souhaité au départ.
Alors, il y a quelques dates au début des années 60 en France, le Sacre du Printemps. Il y a
63.
63, il y a un vote sec aussi.
Très important, 63 aussi.
Voilà, exactement. Et puis, on vient d'écouter du Wagner, qui venait de Bayreuth, c'est cette fameuse tétralogie avec Chéreau, 1960-1980, mais auparavant, il a été quand même sollicité dans ces années 60 par Bayreuth.
Précisément par Wieland Wagner, qui à l'époque, de son côté, révolutionnait la mise en scène lyrique et qui a vu Boulez diriger Wozzeck. Et lui-même, Wieland Wagner, mettait en scène Wozzeck au même moment. Il a été captivé par cette direction et Wieland Wagner cherchait depuis longtemps un chef d'orchestre qui correspondent musicalement à ses options scéniques. Jusque-là, il avait Hans Knappertsbusch à Bayreuth.
Plutôt, on va dire, à l'opposé.
Mais oui, c'était le chef très vieille Allemagne, très conservateur. Il s'aimait beaucoup, il y avait une affection entre les deux, mais Knappertsbusch détestait les mises en scène de Wieland et avait ses tempi lents, très solennels. Ça n'allait pas avec la modernité de la mise en scène. Ouais. Et là, il s'est dit, j'ai trouvé mon chef d'orchestre. Et il l'a sollicité. Et c'est là ce que j'ai découvert en consultant les archives. Je vous parlais de la correspondance qui m'a surpris. C'est que Boulez donnait toujours une grande impression de confiance en soi et de même d'assurance. Mais là, les lettres disent le contraire. C'est-à-dire qu'en gros, il refuse 4 fois avant de se laisser convaincre.
Non, je suis pas au niveau, mais je connais pas, j'ai jamais fait ça, je vais pas y arriver.
Exactement. J'ai pas le métier. C'est très boulezien, cette notion de métier. Si on fait quelque chose, il faut le faire professionnellement. Il ne supportait pas le dilettantisme.
Oui, le dilettantisme, le bricolage, l'amateurisme. Oui,
c'était ses ennemis jurés. Ouais. Et donc, il écrit à Wieland, je ne me sens pas capable et je ne souhaite pas diriger pour la première fois un opéra de Wagner à Bayreuth. Je veux bien faire des essais ailleurs avant, en province, en Allemagne. Si vous montez un opéra de Wagner quelque part où ce soit pas trop exposé...
Oui, par le Tristan et des chanteurs.
Je veux bien faire 5 ou 6 d'affilée pour m'entraîner, pour prendre acquérir le métier, mais pas du premier coup. Et puis, Wieland finit par insister tellement qu'il se laisse convaincre. Et là, c'est passionnant parce qu'on a les échanges entre les deux sur les répétitions. Et malheureusement, Wieland Wagner meurt aussi. Il y a une sorte de fatalité. Je ne sais pas si c'est Pierre Boulez qui porte malheur, mais en tout cas, lui...
En ces années 60, très il y a effectivement affecté. Plusieurs qui disparaissent.
Ah oui, et pour lui, c'est un choc parce que, vous savez, il fait partie de cette génération qui considérait l'opéra comme un genre du passé, un genre musée. C'est l'époque aussi où il donne une célèbre interview au Spiegel en Allemagne où il dit qu'il faudrait faire sauter les maisons d'opéra. Bon. Mmh. Donc pour lui, c'est obsolète. Et il trouve en Wieland Wagner quelqu'un qui régénère l'opéra et qui l'amène à s'intéresser au théâtre lyrique. Et voilà qu'il meurt. Alors après, heureusement, il refera des opéras avec Chéreau, par exemple.
Ouais. Et finalement, quelle place aura tenu l'opéra dans la carrière de Pierre Boulez, chef d'orchestre, Christian Merlin?
C'est complexe. C'est très étrange. Je pense que l'opéra était chez lui quelque chose d'un peu accessoire, en marge. Surtout, je pense que pour lui, c'était du théâtre avant tout. Pierre Boulez, faut peut-être juste le rappeler, a démarré dans la troupe de Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, comme chef de musique, chef de la musique de scène. Donc, son début de parcours professionnel est sous le signe du théâtre. Et il est fasciné par le jeu des acteurs. Donc c'est ça qu'il retrouvait à l'opéra. En revanche, par exemple, la vocalité, le chant, c'est pas quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Et on le voit bien quand il choisit ses distributions. D'ailleurs, est-ce seulement lui qui les choisit? C'est pas toujours forcément les voix les plus adéquates. Il fait son Péléas et Mélisande à Londres avec que des chanteurs non francophones. Du coup, on comprend rien. Mais ça n'a pas l'air de le soucier outre mesure, du moment qu'il y a le théâtre.
Thank you.
L'orchestre de Cleveland dirigé par Pierre Boulez, un extrait des valses nobles et sentimentales de Maurice Ravel. Christian Merlin, vous écrivez dans votre monographie consacrée à Pierre Boulez qui paraît plus exactement le 2 octobre chez Fayard, que l'orchestre de Cleveland était le préféré de Pierre Boulez. Pourquoi ? Est-ce qu'il s'en est expliqué ?
Pas vraiment, mais on comprend un peu. D'abord, c'est un des premiers qui lui ait fait confiance parce que Georges Selle...
Dans les années 60,
exactement.
On y est toujours.
Et le grand Georges Selle a tout de suite senti le potentiel de Pierre Boulez. D'abord, Georges Selle était très éclectique et lui dirigeait beaucoup le répertoire classique et romantique, mais s'intéressait aussi à la musique de son temps. Il a commandé à Dutilleux les Métaboles, par exemple. Et donc, il a vu le potentiel de Pierre Boulez et il l'aurait volontiers vu lui succéder à Cleveland. Il l'avait nommé premier chef invité, avec beaucoup de présence dans l'année, et New York a été plus rapide. D'ailleurs, Georges Selle écrit au président, c'est fascinant de trouver ça dans les archives du New York Philharmonic, vous m'avez grillé, mais je n'interférerai pas, vous avez été plus rapide. Donc, il y a ce rapport affectif peut-être. Mais surtout, c'est un orchestre qui lui correspond bien parce que c'est un orchestre très clair, d'abord extrêmement professionnel comme tous les orchestres américains, mais surtout pas avec un jeu massif ou clinquant comme peuvent avoir parfois les orchestres
Chicago,
par exemple. Voilà, oui. C'est pas la grosse machine ronflante. Il y a une clarté française en quelque sorte, si bien que dans des œuvres complexes comme le Sacre du Printemps, on entend absolument tout. Et ça, c'était un grand impératif chez Pierre Boulez, cette transparence et un orchestre élégant aussi, qui ne brusque pas les choses. Et son style de direction était ainsi. Ça, c'est aussi quelque chose dont on ne prend pas toujours assez conscience. On insiste beaucoup sur le côté tranchant, analytique de Pierre Boulez, qu'il avait.
Oui.
Ça, c'est un fait.
Mais un peu radiographique et froid,
voilà.
Finalement.
Ouais. Mais il y avait aussi une grande sensualité et une attention au timbre, au risque de choquer les auditeurs qui ne seront pas d'accord. Mais ce que vous avez passé au tout début de l'émission, le marteau 100 mètres, ça peut paraître un peu, à la première écoute, aride, un peu austère, je vous l'accorde.
Surtout à 7h du matin.
Par exemple. Mais si vous écoutez bien, il y a une attention au timbre instrumentaux, quelque chose d'un scintillant qui est très français et qui est véritablement sensuel. Et il y avait ça dans sa direction, le côté tranchant, mais aussi une grande souplesse, fluidité. Et c'est une chose sur laquelle il insistait beaucoup auprès des orchestres, qu'il fallait que les enchaînements soient naturels. Et les musiciens, en général, d'orchestre, aimaient beaucoup jouer sous sa direction, parce qu'à la fois, il était très précis, donc ça les aidait, mais il laissait une certaine liberté dans ce cadre.
Il ne les gênait pas.
Exactement. Mmh. Et puis alors, en revanche, là où il pouvait éventuellement les gêner, c'est par son oreille, parce que c'est pas une légende. Il entendait tout, donc on ne pouvait absolument pas tricher, et jusque dans un tutti de 120 musiciens, si la troisième trompette faisait un si bémol au lieu d'un si bécard, il arrêtait tout le monde et il disait « troisième trompette ». C'était faux.
L'ensemble intercontemporain, la technique de l'IRCAM, dirigé par Pierre Boulez, c'était un extrait d'Explosante fixe de Pierre Boulez. Christian Merlin, évidemment, on n'aura pas le temps d'analyser le parcours du compositeur Pierre Boulez, mais je voudrais qu'on termine sur le bâtisseur d'institutions musicales. Et là, on peut peut-être aussi rapprocher le compositeur, parce que Explosante fixe, une œuvre qu'il a occupé pendant une vingtaine d'années. Oui. En général, c'était un de ses grands traits de compositeur, c'est de prendre, reprendre, retravailler ses œuvres. Et puis, Ensemble Intercontemporain, IRCAM, c'est quand même le fruit...
Sont ses bébés, en quelque sorte.
Après, il y aurait la Cité de la Musique, la Philharmonie.
Mais oui, voilà. Je crois que ça fait partie vraiment de ses traits majeurs de caractère. C'est quelqu'un qui avait un sens de l'organisation et une vision de ce qu'il estimait devoir être la vie musicale. Et il pensait que le travail n'était pas fait par l'institution, c'est-à-dire par exemple par les ministères. Il a toujours eu un rapport très conflictuel avec l'administration et avec des polémiques qu'on connaît, qu'on va pas rappeler ici, notamment avec Malraux, avec Marcel Landowski. C'était très violent. Aujourd'hui, on dit qu'à cause des réseaux sociaux, il y a une certaine violence verbale. C'est rien du tout par rapport au nom d'oiseau qu'on échangeait dans les années 50-60. Mais il en a tiré les conclusions, c'est-à-dire voyant que il était obligé, pour faire passer ses idées qu'il estimait justes, il était obligé de bricoler au domaine musical avec des fonds privés et de pas pouvoir se développer, eh bien il s'est dit, plutôt que d'essayer d'exister contre l'institution, eh bien l'institution, il faut la forger soi-même et il faut la modeler. Et là, il a eu le pragmatisme, et je crois que c'est un de ses traits de caractère principaux, le sens pratique, non pas de se poser en ennemi de l'institution, mais de la réformer de l'intérieur. Et pour ça, il avait besoin de soutien politique, bien sûr, et il ne les a pas négligés.
Mais c'est pas par goût du pouvoir.
Non, alors, c'est une grande question, évidemment, qui est beaucoup évoquée dans
le livre.
Oui,
tout à fait, oui.
Je pense que il n'y a pas un goût du pouvoir pour le pouvoir. Ce qu'il fait, c'est à chaque fois pour faire passer une conviction, une vision qu'il estime juste.
Et d'avoir les mains libres de réaliser ce qui ses projets, c'est ça.
D'où, par exemple, quand ils font de ce que vous évoquez l'Ensemble Intercontemporain, l'IRCAM, c'est avec le soutien direct du président Georges Pompidou, qui le fait revenir en France alors qu'il était parti, mais c'est contre les fonctionnaires ministériels qu'il déteste et qui le lui rendent bien et qui sont très vexés de ne pas avoir leur mot à dire. Donc il bâtit un empire, en quelque sorte, à la marge de l'État, mais tout de même au sein de l'État. C'est toute l'ambiguïté. Le pouvoir pour le pouvoir, non, je ne crois pas, parce que c'était un homme plutôt solitaire qui n'aimait rien tant que rentrer chez lui à Baden-Baden et se promener dans la forêt et marcher longtemps et méditer et réfléchir. Non, je crois qu'il l'a fait vraiment parce qu'il fallait faire bouger les choses.
Très bien, mais sur cette marche et cette forêt que nous terminerons ce court portrait de Pierre Boulez, je renvoie évidemment à tous nos auditeurs à la lecture de votre livre qui sera en librairie le 2 octobre, Pierre Boulez chez Fayard, par vous, Christian Merlin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je serai en compagnie d'Henri Loirette pour évoquer l'exposition Degas et l'Opéra. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Claire Levasseur, attachée de production Annick Aumier. D'ici là, excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.